Sur votre radio locale, une chronique pour comprendre l'économie avec Max. Max Deleval, bonjour.
Bonjour Laura, bonjour à tous.
Par une coïncidence, qui n'en est peut-être pas une, deux articles du Monde datés du 18 et du 19 avril 2026 reviennent sur des enjeux que nous avons déjà abordés. Celui en particulier des inégalités et du rôle des banques.
En effet, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, entouré de Gabriel Zucman et de Zoran Mamdani, le maire de New York, revient sur la faiblesse de l'imposition des ultra-riches par rapport aux autres citoyens.
Alors, rappelons quelques faits.
Le rapport sur les inégalités mondiales, commandé par la présidence sud-africaine du G20, a révélé que, entre 2000 et 2024, le 1% des ménages les plus riches a capté 41% de toute la richesse produite, tandis que la moitié de l'humanité la plus pauvre n'en a perçu que 1%. Ce profond déséquilibre se retrouve dans l'explosion des fortunes extrêmes. En 1987, les milliardaires détenaient une richesse équivalente à 3% du PIB mondial. Ils en détiennent aujourd'hui 16%. Or, la concentration croissante de la richesse entraîne celle du pouvoir, celui d'influencer les élections. Inutile de rappeler l'influence d'Elon Musk aux États-Unis, ou de M. Bolloré et de M. Arnault en France, celui de façonner les politiques publiques, de biaiser le fonctionnement des marchés et celui de fournir les termes du débat public.
Le rejet de la taxe Zucman, dont nous avons déjà parlé, par la droite et le Rassemblement national confirme ces constats.
Oui, l'un des principaux facteurs de ces dérives réside dans l'incapacité à imposer efficacement les ultra-riches. Et pourtant, la richesse qu'ils ont accumulée doit beaucoup aux investissements publics, la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, un état de droit favorisant les affaires, de bonnes infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires, des centres de recherche financés par l'État, un système de santé, une image attractive de la France, etc. Et pendant ce temps où ils échappent à une imposition juste, le fardeau est transféré aux travailleurs. On retrouve des anomalies semblables dans le fonctionnement des grandes banques.
Quelques explications s'imposent.
Oui, dans une précédente rubrique, nous avions abordé les risques pour la stabilité économique que représente l'explosion des fonds de crédit privé. Mais le constat actuel est que la compétitivité des banques ne se mesure pas à leurs profits ou à leurs parts de marché, mais devrait l'être à leur contribution au financement de l'économie, c'est-à-dire au financement de l'investissement productif, qui est l'utilité sociale des banques. Or, ces grandes banques s'en consacrent de plus en plus aux activités de marché, les titres, les produits dérivés, le marché d'échange.
Et pourquoi une telle stratégie ?
Mais il s'avère que la rentabilité financière et l'exposition à la concurrence internationale des activités de marché sont beaucoup plus élevées que celles des activités de détail, comme le crédit aux entreprises de taille moyenne ou intermédiaire, aux ménages et à la gestion des dépôts. Mais leur utilité sociale en matière de financement d'économie est moindre. Or, il faut relever les défis du changement climatique et des mutations technologiques, contribuer à notre autonomie en matière de défense. Et pendant ce temps, les banques réclament un assouplissement réglementaire. Cette même tendance se retrouve dans tous les secteurs, comme l'agriculture, le bâtiment et l'industrie, alors que ces règlements ont été mis en place pour éviter les crises bancaires et pour protéger la santé publique.
Eh bien, merci Max.
À bientôt.
À bientôt. Pour plus de Chroniques Éco avec Max, rendez-vous sur le www.radiopfm.com.